Une fois que Dieu m'a dit que son problème c'était ça, je lui ai texté et je dis voilà ce que j'ai reçu pour toi, Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé. 2 heures après, elle texte, je me lève, qu'elle fait. Je prends la victoire de Jésus et ça y est, c'était fini. On sait tous que Jésus y priait. Mais quand on regarde tous les passages dans les quatre évangiles, comment il priait, tout d'un coup, ça devient une autre réalité. Parce que si nous disons que nous prions, oui, nous prions, chacun prie chez soi. Jésus, il avait une vie particulière. Il n'avait pas de maison. Il n'avait pas de lit. Il n'avait pas de table. Il n'avait pas de chaise. Il n'avait pas de tunique. Il n'avait pas deux paires de chaussures. Jésus n'avait rien. Et lorsqu'il devait prier, il devait s'isoler absolument parce que c'était pas possible. Il vivait dans les maisons de ceux qui l'accueillaient, avec les 12 disciples. En fait, il y avait du monde. Jésus n'avait aucune intimité. Il était obligé de sortir la nuit pour prier. Je vais vous lire ces passages. Marc, chapitre 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Luc, chapitre 5, verset 16. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Luc 9, verset 28. Environ 8 jours après, il lui dit ces paroles. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il monta sur la montagne pour prier. Matthieu, chapitre 14, verset 23. Quand il l'eut renvoyé, c'est-à-dire la foule, il monta sur la montagne pour prier, à l'écart. Et comme le soir étant venu, il était là seul. Marc chapitre 6, verset 46. Quand il eut renvoyé la foule, il s'en alla sur la montagne pour prier. Luc chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quelle vie de prière! Mais quelle vie de prière! Je ne comprends pas, Seigneur, pourquoi tu devais tant prier? Pourquoi Jésus devait tant prier? Pourquoi cette vie de prière a été si intense? Et il occupait des nuits entières. La nuit, Dieu lui parlait pour les choses que le Père voulait qu'il accomplisse. Oui. Il y avait un combat à mener dans la prière. Oui. Oui, tout à fait. Ça, c'est une des raisons. Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. Il voulait faire la volonté de son Père. Il ne pouvait rien faire de sa propre autorité. Est-ce que vous vous rendez compte? L'état de soumission de Jésus par rapport au Père. Je ne fais rien de moi-même. Quelque part ailleurs, il a dit, je fais ce que le Père me montre. Ça, c'est une des raisons, parce qu'il fallait absolument qu'il sache ce que le Père voulait. Moi, je suis parti prier dans la montagne. Je dis, mais Seigneur, mais pourquoi tu priais tant? Et tout d'un coup, j'ai entendu Dieu me dire, mais je priais pour mes disciples. Jésus priait pour ses disciples. Quand il envoyait les 70 disciples pour guérir les malades, et lui, il est parti prier pour eux. Et il a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Est-ce que vous ne trouvez pas ça merveilleux que notre Seigneur prie pour nous? Et encore aujourd'hui, dans le ciel, il prie pour nous. Parce qu'il nous aime, parce qu'il veut que notre foi, elle grandisse. Parce qu'il ne veut pas que Satan nous terrasse. Parce qu'il connaît les ruses du malin. Donc il prie pour nous. Et il a prié pour ses disciples. Donc ma responsabilité à moi, c'est de prier pour mes frères, tous mes frères disciples, pour l'Église, pour ceux que je connais, pour ceux que j'ai vus une fois, pour ceux qui m'ont demandé de prier, pour, etc., etc. Et je me suis rendu compte que à partir du moment où on a cette responsabilité, ce ministère, ce service pour les autres, c'est grand. Frère, c'est grand. Personne ne vous voit dans la prière. Quand vous êtes à genoux, quand vous pleurez, quand vous êtes dans le noir, quand vous êtes seul, personne ne vous voit. Et vous priez. Il y a un seul qui voit, c'est le Père. Et ce Père, il vous récompensera. C'est pour ça que la prière a une si grande importance dans la vie du chrétien, et que la prière, c'est l'inverse de ce que je peux faire moi. Moi, je suis quelqu'un d'actif. Moi, je suis quelqu'un d'impatient. Je suis quelqu'un qui, dès que je vois un problème, hop, je fonce dedans, je répare, je fais ci, je fais ça. Pourquoi ? Parce que c'est ma mentalité. Je fais tout par mes forces. La prière, c'est l'opposé de ça. La prière, c'est se retirer, parler à Dieu pour lui dire le problème du frère, de la sœur, pour prier pour un malade, pour prier pour quelqu'un. Ce matin, par exemple, je priais pour quelqu'un m'est venu dans la pensée, une personne que vous ne connaissez pas. Je priais pour elle et tout d'un coup, j'ai une vision. J'ai vu cette personne par terre, accroupie par terre, avec un manteau gris, dans une couverture grise, sur elle, qui la couvrait complètement. Et tout d'un coup, j'ai eu l'interprétation, cette couverture grise, c'est un manteau de tristesse et de dépression. Alors je dis merci Seigneur, bénis-la maintenant. Cette personne, elle est à 10 000 km de chez nous. Et cette personne a été bénie. Cette personne a été délivrée. Tout de suite, elle s'est relevée. Elle a jeté ce manteau de tristesse, ce manteau de dépression, et elle a pris le manteau de la victoire de Jésus. Je le sais parce que j'ai eu un message. Une fois que Dieu m'a dit que son problème, c'était ça, je lui ai texté et je dis « Voilà ce que j'ai reçu pour toi, Ésaïe 60, verset 1. « Lève-toi, sois éclairé. » 2 heures après, elle texte « Je me lève, qu'elle fait. Je prends la victoire de Jésus. » Et ça y est, c'était fini. C'est merveilleux. Mes frères et sœurs, je vous encourage à prier comme Jésus. Vous dites, mais Jésus, c'est Dieu. Jésus-Christ est homme sur la terre. Et Jésus priait parce qu'il était homme et qu'il dépendait totalement du Père, le Dieu Tout-Puissant. Il n'était plus sur la terre le Dieu Tout-Puissant. Il était homme comme nous, avec les mêmes faiblesses. Jésus eut faim. Et ça ne caractérise pas un homme ou une femme. Jésus eut faim. Jésus fut fatigué du voyage. C'est bien un homme. Jésus pleura. C'est bien un homme. Jésus eut soif. C'est bien un homme. Jésus a été insulté par les pharisiens. C'était bien un homme qu'ils insultaient. Jésus est allé dans le désert pendant 40 jours où il a prié pour avoir la victoire. Il a prié son Père pour avoir la puissance de l'Esprit. Jésus était homme. Pourquoi est-il allé dans le désert 40 jours et 40 nuits à prier et jeûner? Pourquoi? Parce que Jésus était homme et qu'il avait besoin de cette puissance divine. Nous ne sommes pas des hommes et des femmes qui avons besoin de la puissance divine? Bien sûr que si, on a besoin. Comment on va accéder à cette puissance devant Dieu? Josué, il a témoigné que que pendant une semaine, il a prié et que la révélation a été tellement abondante, les victoires ont été abondantes. Voilà. Devant Dieu, il a prié. Et Dieu lui a donné des victoires. Il a été encouragé. Vous avez vu comme il était heureux tout à l'heure en témoignant. Ça, c'est un signe quand même. Il était heureux de témoigner parce qu'il était dans la victoire. La victoire ne se passe que dans la prière. L'armée prie et l'armée se lève après. L'armée ne reste pas dans la prière. L'armée se lève après. Nos victoires, le début de nos victoires s'accomplissent dans la prière. Souvent, ce qui nous arrête, c'est de considérer que Jésus avait des dons qui étaient divins naturellement. Il est venu avec tous ses dons, toute cette puissance, parce que c'était Jésus, le Fils de Dieu. Or, toute la Bible nous montre que Jésus s'appelle le Fils de l'homme. Toute la Bible nous montre les faiblesses de Jésus. Quand il est dû aller à la croix, il s'est jeté par terre, c'est écrit. Il s'est jeté par terre, il a dit, Père, si ce n'est possible, éloigne de moi cette coupe. Il souffrait tellement que c'était même plus de la sueur, c'était du sang. Ça veut dire que Jésus était homme. Il n'avait pas de pouvoir. Il avait plié ses pouvoirs comme on plie un vêtement. Et on met le vêtement de côté. Et il était nu quand il est venu sur cette terre, dans l'étable, par sa mère Marie, nu comme un bébé. Il n'a fait aucun miracle avant 30 ans. C'est le signe qu'il n'avait pas de pouvoir. Oh, bah tiens, je vais pulvériser le bout de bois là, juste pour m'exercer un peu. Aucun miracle. Jésus était homme. Et la puissance des miracles qu'il a accomplis, c'était uniquement parce qu'il est passé devant son Père dans le désert, dans la prière, dans la supplication, pour que le Père lui révèle et que le Père le couvre du Saint-Esprit. Il y a une phrase qui est très claire. Quand il s'est fait baptiser, c'est écrit, le Saint-Esprit est tombé sur lui, comme une colombe. Et ensuite, qu'est-ce qu'il est marqué? Poussé par l'Esprit, il est allé au désert. Donc, il a reçu l'Esprit, puis poussé par l'Esprit, il est allé au désert, jeûné et prié pendant 40 jours. Et c'est écrit juste après, revenant du désert, rempli de la puissance de Dieu. Donc, entre le baptême, qui était le déversement du Saint-Esprit, comme pour nous, le désert, la prière et le jeûne, il est revenu rempli de la puissance. Mes frères, c'est ça qui nous manque. Je suis persuadé maintenant. Pendant longtemps, je me suis posé la question, comment se fait-il que dans la Bible, c'est écrit, crois et tu verras la gloire de Dieu. Si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, qu'ils croient qu'ils l'obtiennent. Etc., etc. Et que toutes les promesses de Dieu sont pour nous. Oui, c'est absolument vrai. C'est que nous, on ne s'est pas mis devant Dieu pour être rempli de cette puissance, pour pouvoir l'exercer dans la perfection d'un homme soumis, d'un homme complètement soumis à l'Esprit. Je le dis pour moi, à grand regret, j'ai cru qu'on pouvait utiliser la puissance de Dieu comme ça, en claquant du doigt. J'ai cru. Pendant des années, j'ai sondé les évangiles, l'écriture. Je dis, mais c'est pour nous, mais c'est pour nous. Mais je ne comprends pas pourquoi ça ne se passe pas comme Jésus. Maintenant, je comprends. Entre le baptême et quand Jésus est revenu du désert, il y a eu une œuvre de Dieu en lui, de puissance. Parce que cet homme s'est soumis, l'homme Jésus c'est soumis à la volonté du Père. C'est pour ça qu'il dit, je ne peux rien faire sans le Père. C'est pour ça que c'est un homme qui se prend des gifles, des insultes, qui ne répond rien. Il était soumis entièrement. Il était comme un bœuf qui est en train de labourer un champ, droit devant, inlassablement, patiemment. Il laboure, il ne s'arrête pas. Jésus était cet homme serviteur. Voici, je suis le serviteur de Dieu. Rendez-vous compte, Dieu lui-même, dépouillé de toute puissance, se nommant serviteur de Dieu, uniquement serviteur de Dieu. Et alors, j'en viens maintenant à nous. Luc chapitre 6, verset 40. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Vous savez ce que ça veut dire accompli ? Accompli, quelque chose qui est accompli. Terminé. Oui, terminé, oui.
Établi,
oui. Complet, oui. Mature, oui. Tout disciple accompli. Eh bien, j'ai regardé dans la Bible la définition. Eh bien, c'est un homme qui est complètement équipé. Et le mot que j'ai trouvé le plus adapté, c'est parfait. C'est un homme qui est parfait, complet, avec une aptitude spéciale pour un service. Il est complet et parfait. Donc je relis maintenant le passage de Luc chapitre 6. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple, mes frères et sœurs, est-ce que vous êtes disciple? Si vous pouvez dire oui, alors tout disciple accompli sera comme son maître, comme Jésus. Donc ça veut dire que le disciple qui est parfait, il ressemble à Jésus en tout. C'est qu'il n'est pas seulement dans la ressemblance de Jésus par rapport à la puissance, mais il est aussi ressemblant à Jésus par rapport au sacrifice. Comme Jésus, dans tout ce qu'a été Jésus, humilié, brisé, crucifié, priant son Père des nuits entières pour obtenir quelque chose de sa part, dépendant de lui complètement. Voilà ce qu'il était Jésus. Il était complet et parfait en ces choses-là. Il n'était pas Dieu ou un demi-dieu. Il était homme. Pourquoi? Parce que nous sommes hommes. Et c'est pour ça que quand Jésus dit « Le serviteur fera des choses aussi grandes que moi. » Aussi grandes et plus grandes, il a dit. Tout ce qu'a fait Jésus, à ce moment-là, c'est pour le disciple. Tout ce qu'il a été, c'est pour le disciple. Mais il ne faut rien enlever. On ne peut plus rien enlever. Si moi je veux la puissance du Saint-Esprit, je dois aller sur l'autel. Je dois aller sur l'autel. Je dois me donner de tout mon cœur. Si le Seigneur me conduit à prier des nuits entières, oui Seigneur. Oui Seigneur. Vous voyez notre dépendance avec Dieu, ou les œuvres que Dieu veut nous donner, il veut nous utiliser puissamment, chacun d'entre nous. Mais il y a un prix. Il y a un prix. Je ne peux pas prendre la puissance et je laisse le sacrifice. Il faut que je prenne les deux. Les deux. Tu es d'accord de sacrifier? Tu es d'accord de te mettre sur l'autel? Vous savez, l'autel, on ne voit plus là. Mais dans le temps, on prenait un agneau, on le mettait sur une espèce de table qui s'appelait l'autel. On le mettait là et on le sacrifiait pour Dieu, pour le péché. Et alors aujourd'hui, on n'utilise plus ce mot autel. Pourtant, il est bien réel dans nos vies. Est-ce que, alors moi je pose vous les disciples, je vous pose la question et je vous invite à répondre dans votre cœur. Est-ce que tu es prêt maintenant à te poser sur l'autel? Et que Dieu fait ce qu'il veut avec toi. Que c'est plus même toi qui commandes ta vie chrétienne. Ça, c'est bizarre ce que je dis. Et oui, et pourtant, c'est vrai. Et pourtant, c'est vrai. Je commande ma vie chrétienne. Mais en quoi je suis soumis à Dieu? Quelqu'un a dit, la chair dit, c'est pas le moment, j'ai pas envie de prier. L'esprit dit, peu importe le temps, vas-y, prie. Voilà la différence entre le chrétien qui gère sa vie et le chrétien qui n'a plus de droit sur sa vie. C'est important et ce n'est pas la loi que je prêche. Je me suis rendu compte que pendant des dizaines d'années, j'ai vécu en mettant de côté ce que le Seigneur, il a dit du disciple. Mais c'est absolument incroyable ce qu'il dit du disciple. Si tu ne portes pas ta croix, tu ne peux pas être mon disciple. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas une croix en bois à porter. C'est une autre genre de croix. Quel genre de croix? Renonce à toi-même. Mets-toi sur l'autel. Dis, Seigneur, ce qui compte maintenant, c'est ta volonté, c'est plus la mienne. Je ne gère plus ma vie chrétienne. Je ne gère plus ce qui m'intéresse dans la vie chrétienne. Je mets de côté ce que je ne veux pas et je prends ce qui m'intéresse. Ce n'est pas la loi que je prêche, c'est Jésus. Que si on veut vivre une vie victorieuse, que si on veut être des témoins, que si on veut vivre des réunions de prière avec le feu, qu'on mette notre vie sur l'autel, ce n'est pas nous qui décidons, ni du temps, ni du moment, ni de rien. On dit oui à tout. C'est comme l'histoire de la feuille blanche. Le Seigneur dit, voilà, je te présente une feuille blanche. Je te demande juste de signer en bas, mais tu ne remplis rien dans cette feuille blanche. Tu n'écris rien. C'est moi qui écrira tout. D'accord, Seigneur. D'accord, Seigneur. Je signe au bas de cette feuille blanche. Tu feras ce que tu veux. Ça, mes frères et sœurs, c'est la véritable conversion. La conversion, c'est une étape. Et après l'engagement, la consécration, c'en est une autre. Ça dépend du genre de relation que je veux avec Dieu. Ça dépend du genre de vie, de puissance que je veux avec Dieu. Ça dépend du genre de, est-ce que c'est mon père? Est-ce que c'est lui mon maître? Je relis le passage dans Luc chapitre 6. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Vous voyez tout de suite? Le maître. Vous vous rendez compte? Le maître. Déjà, c'est parlant. Est-ce qu'il est mon maître? Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Et dans 2 Timothée chapitre 3 verset 17, il est dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Amen. Pour convaincre, Seigneur, convainc-nous. Pour corriger, Seigneur, corrige-nous. Pour enseigner, enseigne-nous. Pour convaincre, pour instruire dans la justice, c'est-à-dire dans ce qui est juste. Afin que l'homme de Dieu soit accompli, accompli donc parfait, totalement fini. Afin que l'homme de Dieu soit parfait et propre à toute bonne œuvre. Dépose sur l'autel ce que tu n'as jamais réussi à maîtriser ou à faire. Dépose-le. Et tu dis, Seigneur, maintenant, c'est fini. Fini, ce n'est plus à moi, c'est à toi. Si ta vie de prière est faible, dépose-la. Si tu n'as pas envie de prier les nuits, dépose tes nuits. Si tu n'as pas envie de prier du tout, tu dis, Seigneur, c'est toi mon maître, maintenant ça y est. Toute l'écriture a un but, nous rendre parfaits en Dieu. C'est écrit là. Parfait, accompli, sans faillir en rien. Oh, Seigneur, fais-le pour nous. Et maintenant, avec la foi, parce que sans la foi, rien n'est possible. Et maintenant, avec la foi, je dépose quelque chose sur l'autel et je dis, Seigneur, je suis sûr que je serai comme toi. C'est une attitude de foi. C'est pas pleurer en disant « Ah, je l'ai perdu !» Non. Non, non. Je l'ai déposé et maintenant, il y a quelque chose qui va se passer dans ma vie que jamais il a pu se passer à cause de mes désobéissances. Ça serait bien si on pouvait juste se mettre devant Dieu et lui dire ce qu'on lui donne et ce qu'on compte, ce qu'on croit qu'il va faire en nous, par la foi. J'espère que la parole vous a convaincu que notre place est une place de serviteur et que c'est notre maître et qu'on va le servir. Il y aura du feu dans nos réunions, il y aura du feu dans nos familles, il y aura du feu dans le monde autour de nous quand on prendra la place de serviteur.